êtes-vous troublés ? Leur dit-il. Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains, regardez mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a chair ni os. Or, vous voyez bien que moi j'en ai, je ne suis pas un fantôme. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire, ils restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. On peut voir que les disciples sont passés de personnes qui avaient perdu leur sauveur en déprime et sans foi à des gens heureux dans un grand étonnement. Puis Jésus leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi à propos de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de cet événement. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Est-ce que je peux avoir à boire, par exemple ? Jésus leur ouvra... Excusez-moi, j'ai un petit chat à la gorge. Donc ma voix est enrouée. Jésus leur ouvra leur compréhension aux Écritures et pour la raison de sa venue. Jésus, avant, il parlait souvent en parabole. Il ne donnait pas l'explication directement. Il donnait une histoire. Et souvent, il disait... Merci, c'est gentil. Souvent, il disait... Il n'est pas encore venu le temps que leurs yeux soient ouverts. Parce que si leurs yeux étaient ouverts, ils comprendraient et le sacrifice ne prendrait pas place. Donc, mais là, on est après la résurrection et décide, maintenant je me révèle totalement. Le sacrifice est fait, donc je peux me révéler totalement à l'homme. Au verset 46, Jésus continue. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour. Et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. La mission de Jésus était de venir s'annoncer aux hommes et de leur donner le pardon de leurs péchés. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Voilà ce que les disciples ont vu en lui durant 3 ans et demi de ministère. Donc Jésus est resté avec ses disciples pour environ 3 ans et demi. Mais malgré cela, son vrai ministère, c'était de venir accomplir une promesse. Une promesse donnée par le Père, que l'on peut voir dans Luc 24, verset 49. « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ceci nous parle bien de la promesse de la Pentecôte. Jésus, il bénit ses disciples en Luc 24, verset 50. Ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, qui n'était pas tout près. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Le mot grec pour bénir, je ne sais pas s'il y en a certains qui aiment le grec, les écrits qu'on a de la Bible sont en grec, sont traduits. Le mot bénir, c'est eulogéo. Eulogéo. Ce qui veut dire parole de bénédiction, bonne parole, parler du bien. Parole de remerciement aussi, ça peut être traduit. La bénédiction était importante car ce fut le moment que Jésus utilisa pour remettre aux disciples les instructions d'aller de la Béthanie jusqu'à Jérusalem, d'aller de la Béthanie jusqu'à la promesse qui les attendait à Jérusalem. Le moment fut aussi important car c'est en Béthanie que Jésus s'éleva en gloire sans être jamais revu. Certains érudits, et même s'il y en a qui ont la chance peut-être de voyager en Israël, apprennent que Béthanie est maintenant un lieu saint, un lieu religieux. Ben oui, on a construit des monuments religieux dans cet endroit qu'on considère comme très sacré et très saint. Alors, en Israël, on n'est jamais tout d'accord vraiment où était Jésus. Donc, il y a parfois 2-3 Béthanie ou 2-3 tombeaux, enfin... Parce qu'il y en a qui disent que c'est là, il y en a d'autres qui disent que c'est à côté. Les avis diffèrent. Mais on a construit des monuments pour une église, par exemple, pour dire que c'est un lieu saint, qu'on peut venir se recueillir là. Mais ce n'est pas ce que les disciples ont fait. Les disciples ont compris l'importance de retourner à Jérusalem. Les disciples, ils ont compris qu'il y avait pour eux à Jérusalem plus que ce qu'ils avaient précédé en Béthanie. À Béthanie, pardon. Il y avait pour l'humanité plus que la naissance miraculeuse de Jésus. Il y avait pour l'humanité plus que la vie incroyable de Jésus-Christ. Il y avait même plus pour l'humanité que la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Il y avait plus pour l'humanité que l'ascension de Jésus. Il y avait plus pour les disciples qu'une bénédiction à Béthanie. Il y avait une promesse à Jérusalem. Alors les disciples ont entamé une journée de la bénédiction de Béthanie à la promesse de la Pentecôte. On va prendre acte 2, le verset 2 et 3. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvèrent à toute heure dans la cour du temple pour louer le Seigneur. Donc les disciples reviennent de Béthanie, de la ville de Béthanie, et ils vont attendre cette promesse à Jérusalem. Et ils se réunissaient, non pas dans une église, mais dans le temple, la synagogue, pour louer Dieu. Ceci, ça nous amène au deuxième point, de Béthanie à la promesse de la Pentecôte. J'aimerais lire avec vous acte 1, qui est Luc qui nous parle à un homme qui s'appelle Théophile. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. » Dans peu de jours, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » On doit se rappeler à tout moment que les disciples de Jésus, ils vivaient sous le dominion romain, la domination romaine. Ils attendaient que Jésus prenne le pouvoir et revienne avec gloire pour chasser les Romains hors d'Israël et soit ce roi sur terre. C'est comme les promesses avaient annoncé dans les prophètes du Tanakh, de la Torah et des prophètes. On a ici cette question qui est demandée à Jésus, et il demande à Jésus, ok, maintenant tu es mort, tu es ressuscité, est-ce que c'est maintenant qu'on gagne, c'est bon, on a fini? Et Jésus lui dit non, c'est pas encore maintenant ça. Parce qu'il y a effectivement un autre moment dans la Bible qui est exprimé comme quoi Jésus va revenir en gloire et tout genou, toute autorité sera soumise à lui. C'est quelque chose de très très puissant ça, parce que ça veut dire que tout le monde reconnaîtra qu'il est Dieu. Amen. Ça nous parle plutôt du jugement dernier, de la fin des temps. On doit passer sur le livre de Daniel, de l'Apocalypse. Mais ici, Jésus parle d'autre chose. Il parle de la période de grâce pour son Église. Il parle du commencement de l'Église où les gens peuvent s'approcher de Dieu grâce à Jésus. Alors, Jésus répond, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Si on devrait mettre ces versets-là plus actualisés, vous serez mes témoins à Namur, c'est la grande ville pas très loin d'ici, en Wallonie, en Belgique, et jusqu'au bout du monde. Ça, c'est si on devrait réactualiser ce verset, c'est ça. On peut être témoin de Jésus de la même manière. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ici? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'aviez vu monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils ont trouvé la promesse qui avait été donnée à Israël et à Israël et à tous les Juifs, dans le sens, même les Juifs greffés, même nous. Nous sommes les nouveaux Juifs, on était greffés à l'arbre. Cette promesse a été faite pour tout le monde, que la venue de Jésus, la raison même, il dit « Moi je dois partir pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit ». La raison de la venue de Jésus, c'était pour accomplir les promesses de Jésus, pour accomplir les promesses du Père, pardon. Et une des promesses du Père, c'était ce Saint-Esprit. Les disciples ont trouvé la promesse qui leur avait été donnée. Malheureusement, ce n'est pas toujours notre attitude à nous. Je le vois même parfois dans ma vie. Aujourd'hui, nous avons parfois tendance, nous les chrétiens qui vont à l'église, de rester à Béthanie. Dieu bouge lorsqu'on le lui demande. Et il bénit toutes les dénominations chrétiennes dans le monde. Il avait un renouveau pentecôtiste dans les années 60. Si vous me permettez de faire un petit peu d'histoire, le mouvement pentecôtiste est né entre 1900 et 1910. Dans un endroit qui s'appelait la rue Azusa, Azusa Street. Eh bien, ce mouvement-là a formé, dans de nombreuses circonstances, le mouvement pentecôtiste, l'église de Pentecôte, ok? Et cette église de Pentecôte n'était pas fort reconnue des autres mouvements chrétiens, catholiques, chrétiens. On regardait un peu ça de loin, un peu bizarre. Même beaucoup de frères protestants, entre 1900 et 1960, regardaient les chrétiens pentecôtistes un peu comme des aliens. C'est vrai. Je vois qu'il y a de l'étonnement dans les yeux. Mais Dieu bouge dans tous les mouvements. Le renouveau charismatique qui a formé le pentecôtisme était considéré comme en dehors des grandes églises chrétiennes, mais après les années 60, en fait même en 1959, il y a eu une intervention de l'Esprit sur la plupart des grands mouvements chrétiens. Chez les épiscopaux avec Denise Bennett en 1959, c'est un homme qui était responsable dans les églises épiscopales qui se situe aux États-Unis, et il avait vu un pentecôtiste prier pour la guérison des malades et les gens avaient été guéris. Mais ce qu'il avait le plus particulièrement touché dans cet homme, c'est sa soif de Dieu, c'est sa soif de vouloir rencontrer Dieu, le toucher, le voir, comme s'il y avait quelque chose en lui qui voulait toujours plus. Et il a dit, allez, moi je ne sais pas si ce Saint-Esprit ça vient de Dieu, mais je sais que ta soif de Dieu, ça c'est quelque chose que je veux. Elle a dit, ok, tu peux prier pour que je reçoive le Saint-Esprit, mais moi, le truc des langues, là, où tu dis des mots bizarres, moi, je ne veux pas ça. À ce moment-là, la personne qui a prié pour lui, lui a dit, écoute, moi, j'ai reçu ça dans un paquet cadeau, je n'ai pas choisi, c'était tout, enfin, voilà. Moi, je vais prier pour ça, et puis le Seigneur fera ce qu'il veut faire. Eh bien, M. Bennett a été baptisé du Saint-Esprit environ une heure après. Ils ont prié pendant une heure. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, pas beaucoup. Et il y a deux choses que M. Bennett dit. En premier, c'est qu'il était convaincu que ce n'était pas de la manipulation émotionnelle. C'était aussi beaucoup les arguments qu'on avançait contre les pentecôtistes. Ils faisaient de la manipulation, ils manipulaient les foules. Parfois même, on disait que c'était Satan qui les manipulait. Ça allait loin. Mais M. Bennett, ici, le chef des épiscopaux, est baptisé du Saint-Esprit, il rencontre Dieu. Et à ce moment-là, ça se propage également chez les anglicans juste après ça, chez les luthériens, les présbytériens, puis ensuite chez les méthodistes, les mennonites, les orthodoxes, et enfin, hein, les catholiques. À travers même un cardinal que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Léon Joseph Sunens. Cardinal Sunens. Alors, le cardinal Sunens a été chargé par le Vatican d'investiguer le renouveau pentecôtiste dans le monde. Donc, imaginez, il y a l'action de l'esprit qui bouge beaucoup dans les églises pentecôtistes entre 1900 et 1960. Avant, on a des hommes de Dieu, on a des écrits d'hommes de Dieu qui nous parlent de l'action de l'esprit, mais ce n'est pas mis en avant comme un grand mouvement, comme une grande vague de l'esprit. Et à ce moment-là, de 1900 à 1960, il y a un déversement sur ces églises qui se propage après 1960 sur les autres. Donc l'Église catholique, puisque eux, ils doivent avoir un avis doctrinal sur à peu près tout, puisque c'est eux qui disent, c'est la Bible qui dit la vérité et l'Église, c'est deux choses chez les catholiques. Donc ils ont envoyé c'était un Belge, hein, M. Sunens, ils ont envoyé M. Sunens, qui était cardinal à l'époque, fait une investigation de ce mouvement et dis-nous si ça vient de Dieu. Donc il était chargé par le Vatican par une mission importante. Je ne connaissais pas M. Sunens, mais il y a quelques années, je voyageais en Norvège. Je travaillais pour une organisation missionnaire et à un moment donné, il y a le leader de cette organisation qui s'appelait Stéphane qui vient me voir. Il vient me souhaiter la bienvenue. Il me demande, tu es belge? Je fais oui. Écoute, mon mentor travaillait souvent avec un belge. Il était catholique, il s'appelait M. Sunens. Ah bon, il était un gradé dans l'Église catholique. Oui, c'est ça, oui, exactement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ah, c'était vraiment un homme extraordinaire. Ils faisaient des campagnes d'évangélisation. Tu es sûr? Oui. Alors, j'apprends, aussi surpris que vous, que le leader de cet homme, Stéphane, il s'appelait Arnvid Edvarsson. Et ça a été un des plus grands évangélistes au niveau de la Scandinavie. Mais il a fondé aussi beaucoup de programmes de télévision chrétienne pour les pays arabes. Il s'est rendu en Iran, il a prêché l'évangile devant un stade rempli de responsables gouvernementaux. Et il a parlé de Jésus à ces gens-là. Il a essayé de démontrer par la Bible que Jésus était bien le Messie. C'était un homme qui avait vraiment un cœur pour Jésus. C'est indéniable quand on lit son témoignage qu'il était rempli de l'Esprit. Et cet homme, apparemment, a rencontré un catholique sur sa voie. Ils allaient faire dans les pays de l'Est des réunions d'évangélisation. Pour certains, cette information elle est un petit peu bizarre parce qu'un quelqu'un qui travaille avec un catholique, ça dépend où est-ce qu'on met les catholiques dans notre cœur. Mais on les aime, hein, comme tous nos frères chrétiens. Mais c'est encourageant de voir que ce qui avait rassemblé cet homme, c'était leur amour pour Jésus et le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on lit les rapports de M. Sunens sur le Saint-Esprit, il est un fervent défendeur de l'action de l'Esprit sur l'Église. Malheureusement, au fur et à mesure des années, cette action de l'Esprit a été déviée et on a été récupéré par tout ce qui est mariologie. Donc, l'Église catholique prône maintenant que c'est Marie qui a déversé l'Esprit sur l'Église, alors que la parole nous montre vraiment que c'est Jésus qui a accompli cette promesse. C'est important de rester dans ce que la parole nous enseigne, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et pour pouvoir continuer à proclamer la vérité. Mais on peut quand même être encouragé par voir que l'Esprit rassemble. et que l'Esprit agit. Maintenant, pour les pentecôtistes, cet épisode fut très difficile. Pourquoi ? Parce que les pentecôtistes étaient convaincus que comme l'action de l'Esprit se passait chez eux, il n'y avait que eux qui avaient la vérité théologique. Vous comprenez ? C'est comme si Dieu attestait à chaque fois qu'il y avait un mouvement de l'Esprit, nous on a raison, les autres ils ont tort. Alors vous imaginez la surprise des mouvements pentecôtistes qui voient l'action de l'Esprit s'étendre à tous les autres mouvements. Il y a eu un challenge théologique, il y a eu un défi théologique. Ah, on pensait avoir la vérité, que c'était une preuve qu'on avait la vérité. Ici, il y a les catholiques qui disent que ça vient de Marie, il y a les baptistes qui vont dire autre chose. Donc les pentecôtistes pensaient avoir la bonne doctrine et pensaient que les actions de l'Esprit étaient un témoignage comme quoi leur vision des dogmes chrétiens était le bon. Mais Dieu bénit tous avec son Esprit quand on le cherche. Malgré cela, nous sommes parfois trop satisfaits par la bénédiction de Béthanie. Nous vivons parfois, même souvent, sur nos expériences passées avec Jésus. Nous vivons sur nos bénédictions passées, alors que Jésus a tellement plus pour nous. C'est intéressant de voir à quel point tout se passe dans notre soumission à Dieu. Il y a beaucoup de jours où je me dis, je ne suis pas digne de partager la parole. Mais à ce moment-là, je me trompe, je détourne la doctrine, la vérité. Parce que c'est pas moi qui me permet de parler, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient proclamer dans nos vies. Et c'est la même chose ici avec nos expériences. Il faut pouvoir être renouvelé pour continuer à garder cette bénédiction en cours. Parce que Dieu, il a des nouvelles pentecôtes pour nous. Il ne faut pas rester à Béthanie, mais il faut au contraire avancer, retourner à Jérusalem, aller rechercher la bénédiction. Ça peut se passer dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de moments, que ce soit un moment personnel avec Dieu, qu'on passe peut-être chaque jour. On peut redemander une bénédiction. On dit, ah, je suis à Béthanie, Seigneur, maintenant il faut m'emmener à Jérusalem parce que j'ai besoin d'être renouvelé. Et être renouvelé par son Esprit. Parfois, moi, je rencontre des gens et dis, ah, Benjamin, le truc, là, lire la Bible tous les jours, moi, je ne peux pas. Ça, je n'y arrive pas, c'est impossible. C'est pas grave, tu vas y arriver. Une chose à la fois. Mais est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as soif de Dieu? Oui, j'ai vraiment soif de Dieu. Ok, alors, on dit baby step en anglais, mets des pas de bébé. Ok, commence à aller à l'église et demande un renouvellement de l'esprit. Et les gens vont à l'église, leur foi sont renouvelées, ils retrouvent un amour pour Jésus, ils se rappellent leur premier amour de leur conversion. Une étape suivante, c'est on peut rencontrer cette bénédiction de Jérusalem. Chaque jour, on peut passer de Béthanie à Jérusalem. Mais il faut avoir cette soif de Dieu. Il faut pouvoir le décider. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir la soif de Dieu ? Notre volonté est quelque chose de très important. On parlait hier avec les jeunes de la repentance. On avait mis deux points très importants. Il y a la repentance de la conversion, qui est demander à Jésus pardon. Hein, on accepte Jésus dans notre vie et on demande pardon à Jésus pour nos péchés passés, présents et futurs. Et la question que j'ai posée aux jeunes, qui a provoqué l'étonnement, mais si Jésus il a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, pourquoi est-ce qu'on continue à lui demander pardon alors, même si on pêche encore? C'est parce qu'on veut revenir, remettre notre volonté humaine en dessous de la croix. On veut venir se réaccrocher à cette croix, nous resoumettre à Dieu. Alors, personnellement, moi, je suis un très mauvais vendeur. Je ne pourrais pas vendre des choses à des gens, je pense. Ce n'est pas pour moi. J'aime bien les gens, mais vendre un truc... enseigner, oui. Je peux enseigner aux gens, je peux expliquer comment un truc marche. Mais vous savez, il y a des gens où quand ils vous... C'est un peu les évangélistes du monde commercial... Quand ils vous vendent quelque chose, vous êtes convaincu. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça. Mais vraiment, les vrais vendeurs. Mais je suis encouragé de voir que je n'ai pas besoin de vendre Jésus. Jésus se vend tout seul. Dieu a tellement plus pour nous. Je me regarde, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui ont vu le film La Passion. Alors, chose intéressante qui m'a un peu surprise, je regarde une série télévisée qui s'appelle Person of Interest. Une série télévisée américaine, qui est une bonne vieille série, tout à fait bien, à propos d'un homme qui est un ancien agent secret et qui maintenant sauve les gens parce que les États-Unis ont une machine secrète qui espionne les gens. Vraiment un truc tout à fait classique, un peu fou, pas spirituel du tout, mais c'est pas grave. Et alors, je vois l'homme qui joue l'ancien agent secret qui maintenant sauve les gens, ils reçoivent des numéros par une machine et quelque chose va se passer, soit ils vont commettre un crime, soit ils seront victimes du crime. Et alors, en étant sur Internet, je vois un peu une interview de cet homme-là. Et je me rends compte que c'est lui qui jouait Jésus dans La Passion du Christ. Tout à fait surpris, très très surpris, mais encouragé, parce que ça veut dire que j'aimais bien la télé, le show, ben je suis content de voir qu'en fait c'est un chrétien. Puis j'apprends même dans l'interview, je vois une interview de lui, c'est pas un chrétien, c'est un juif messianique. C'est un juif qui a accepté Jésus comme sauveur. Et alors que l'interview est en cours, à environ 20 minutes de l'interview, il commence à arrêter de répondre aux questions et il commence à prêcher Jésus dans la vie des gens. Une star d'Hollywood, il explique que son film avec Mel Gibson était un truc assez spectaculaire parce qu'il y a eu plein de circonstances où ça n'aurait pas pu arriver, mais eux, ils ont senti ça comme une mission céleste. Hein. Je veux respecter ça s'ils l'ont vécu comme ça. Ils ont senti ça comme quelque chose qui pouvait expliquer aux gens le sacrifice de Jésus de façon vraie. Et cet homme, il pose une question aux gens que j'ai trouvé vraiment phénoménale. Vous savez, aux États-Unis, il y a deux grands débats. Il y a l'avortement et l'homosexualité. Ça, c'est vraiment les deux grands débats aux États-Unis au niveau éthique. Et il parlait d'avortement. Il disait, quand j'ai des amis qui ont avorté, je leur demande, pourquoi est-ce que tu vas le dire à certains de tes amis? Pourquoi est-ce que tu vas vers ta meilleure amie? Pourquoi est-ce que tu vas lui dire que tu as avorté alors que tu sens que c'est pas bien? Ah, ben écoute, je sais qu'elle va pas me juger, je sais qu'elle va m'accepter. Et alors, cet homme, Jim Cavaziel, qui a joué Jésus dans La Passion, il dit, mais si tu trouves de la grâce et de la compassion dans tes amis, ne penses-tu pas que tu vas trouver de la grâce et de la compassion dans le Dieu très haut, le Dieu parfait, le Dieu qui t'aime? Alors, il y a plein de raisons qu'on peut se donner pour ne pas s'approcher de Dieu. Mais il n'y en a pas une qui tient face à qui Dieu est. Il n'y en a pas une qui tient comme excuse pour ne pas s'approcher de lui. Parce qu'au moment où on dit « j'ai peur », il dit « mais je t'aime ». Si on dit « je ne suis pas digne », mais moi je le suis. Si on dit « moi je ne peux pas », ah mais je peux te donner la force. Quel Dieu extraordinaire, quelle vérité extraordinaire. Mais ça prend une part de soumission, ça prend une décision personnelle. C'est très très important. Une foi avec Dieu, c'est une relation personnelle. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire pour nous, c'est pas quelque chose que le pasteur peut faire pour nous. C'est quelque chose qui va dans le cœur. C'est là où on se met devant Jésus, on dit « Seigneur, moi j'ai besoin que tu reviennes dans ma vie, j'ai besoin que tu me ressources, j'ai besoin de repasser, de bétanier de mes expériences passées, de cette belle église que j'ai construite autour de moi, ce lieu sacré que j'ai un endroit religieux, et j'ai besoin d'aller à Jérusalem pour la bénédiction. » Alors moi je vous pose la question aujourd'hui, parce que j'ai parlé assez longtemps. Est-ce qu'on est satisfait de notre statut avec Dieu? Est-ce qu'on est satisfait de là où on est avec Dieu? Est-ce qu'on croit qu'il a plus pour toi? Est-ce qu'on croit qu'il a plus pour nous, Jésus? Est-ce qu'on pense que le Dieu infini, le Dieu qu'on ne peut pas comprendre avec notre imagination humaine, peut apporter quelque chose de personnel dans nos vies? Pas quelque chose de très très haut, une explication métaphysique sur ce qui transcende l'univers, mais quelque chose de tout à fait personnel pour nous. Ah, c'est des beaux mots. Mais est-ce que c'est ça qui nous touche? Moi, je me rends compte, quand je parle aux gens dans la rue de Jésus, le moment qui les percute, c'est « Oui, mais comment est-ce que tu sais que c'est vrai ? » ?»« Ah, ben ça fait plaisir que tu me demandes. » Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu et parce que je continue à le voir. Parce que je le vis tous les jours. C'est ça qui touche. Donc, même si on peut être le plus pire des pécheurs, j'avais dit il y a quelques semaines, il n'y a personne qui n'est pas éligible pour parler de l'amour de Dieu, pour parler de l'amour que Dieu a pour les gens. Qui ne peut pas être un témoin de ça. La vérité que Dieu a plus pour moi, a plus pour toi, plus pour nous. Pourquoi alors ne pas bouger de la bénédiction de Béthanie à notre Pentecôte personnelle? Alors la Pentecôte personnelle, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu as envie qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il te donne? J'ai remarqué souvent que les actions de l'esprit sont liées à notre soif de Dieu. Est-ce qu'on a soif de Dieu? Est-ce qu'on a envie de le voir? C'est une décision toute simple, mais qui nous prend parfois du temps. Qui peut être bloqué parfois j'ai de la fierté qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Parfois j'ai une culpabilité mal placée qui m'empêche de m'approcher de Dieu. Parfois je me dis, mais à la fin, Seigneur, tu as encore de la patience avec moi? Oui, Seigneur, il a encore de la patience avec moi. Je voudrais bien qu'on prenne un moment de prière, et je suis content que Pascal ait dit qu'on rechanterait un chant, parce qu'on a chanté un très très beau chant. Je voudrais bien qu'on reprenne. C'est Attire-moi à toi. Je voudrais bien qu'on reprenne ce chant et qu'on puisse le faire comme une prière. Qu'on puisse le faire pour une prière à Jésus. On est tous à des distances différentes de la croix. Et on ne peut pas comparer parce qu'on est tous dans nos circonstances personnelles. Mais ce qui est important, c'est où est-ce qu'on est en train de regarder maintenant? Est-ce qu'on regarde la croix? Ou est-ce qu'on regarde notre nombril, la personne à côté, le pasteur? On doit regarder Jésus sur la croix qui est là pour nous. Amen. Alors on va vraiment chanter ce chant. Je vais laisser Pascal reprendre la guitare et le faire comme une prière. Attire-moi à toi, Seigneur. Ne me laisse pas. Seigneur, on a soif de toi, Jésus. Seigneur, on veut voir ta présence venir nous remplir, Seigneur, de façon journalière, Seigneur. Seigneur, nous sommes humains et nous avons des faiblesses, mais nous savons que toi, tu es Dieu, que tu nous aimes et que tu veux de bonnes choses pour nous. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ta Pentecôte, Père. Merci parce que tu es là auprès de nous. Tu es là pour nous réconforter. Je veux prier pour tous les besoins qui sont dans les cœurs. Peut-être certains qu'on ne peut pas exprimer, Jésus, que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, Jésus. Je sais que tu es là pour venir remplir, pour venir répondre aux gens. En nom de Jésus, on veut chasser toute action de l'ennemi qui veut combattre cette vérité. On proclame la vérité de l'évangile maintenant. La puissance.